13h.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, Sweet Home Chicago numéro 1033 en ce samedi 24 mars 2018. On vient de démarrer avec le disque coup de cœur du mois, Fred Chapelier and the Gents featuring Dale Blade, avec un morceau emprunté au répertoire de Fred Chapelier en solo à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'était il y a pas si longtemps. Le titre Get on the Blues. On a découvert pas mal d'extraits de cet album qui s'appelle Set Me Free la semaine dernière. C'est un album enregistré pour le compte de Dixie Frog Borderline Blues. Aujourd'hui, et allez, on va dire en deux deuxième heure, à partir des alentours de 14h15, j'aurai Fred Chapelier au téléphone. Ça a failli être le cas la semaine dernière. On a eu un petit souci technique. J'espère, je croise les doigts, que ça ne va pas se reproduire aujourd'hui. En tout cas, voilà, la technique ici, on a dû remettre tout d'équerre normalement, hein, et on pouvoir recevoir Fred Chapelier au téléphone. Et puis également Daniel Léon. Daniel qui a failli venir au Subok Blues Festival, qui a démarré hier, et qui ne sera pas au rendez-vous pour les gens qui souhaitaient acquérir son livre Charline n'est pas mort en vain, ni nous faire dédicacer, mais il nous parlera au téléphone depuis Lyon. Voilà, ça sera un pis-aller, ça sera toujours mieux que rien, comme on dit. Mais par contre, cerise sur le gâteau, enfin, on parle pas tellement de cerise, il y a plutôt des choses salées sur la table en ce moment. J'ai la grande joie, le grand plaisir d'accueillir Awek. Ils sont là, de l'autre côté du micro. Salut à tous.
Il est branché, les mecs.
Si, c'est branché, mais voilà, on est en direct.
C'est vrai?
Ouais, mais bien sûr. Et donc, l'idée, c'était de partager de saucissonner un petit peu ensemble. Tout ça après ce fabuleux concert que vous avez donné tous les quatre hier soir au Subok pour la première soirée de ce premier Subok Blues Festival. Je vous en remercie, Olivier, Stéphane, Bernard et. Et Joël, il est parti, il est là. L'anglais du groupe, c'est ça. Hein, on va intervenir tous ensemble au micro tout à l'heure. Juste le temps d'écouter un extrait du nouvel album d'Awek qui s'appelle Long Distance. Voici Think, Awek. Just in case we both are wrong, I can't give up my woman, you can't give up your man, but it don't make sense to take a chance before we think. What will we do, little wrong? What kind of life will we have? Just in case we both are wrong. Awake, ça fait partie de leur nouvel album qui s'appelle Long Distance. Awake était présent au premier Subok Blues Festival. Salut Bernard, comment ça va ?
Salut Marc et bonjour à tous.
Très très grand plaisir de te recevoir, non pas au téléphone comme on le fait depuis quelques années, mais en live, en direct live, ici sur le 666, à l'occasion de votre passage hier au Subok. Et puis là, vous repartez en Seine-Maritime, donc c'était pile la route. Ouais. T'es pas tout seul, il y a également l'harmoniciste du groupe, Stéphane Bertolino.
Salut Marc.
Ça va bien ?
Oui, super, merci.
Et puis Olivier Trével, le batteur.
Bah, salut à tous, bon app.
Bah écoute, bon app, là, il n'y a pas de problème, on est en plein dedans.
J'ai un bout de poulet dans la main droite.
Et Joël Ferron, le bassiste. Et
bonjour à tous.
Voilà, c'est un grand grand plaisir de vous voir répailler, de pouvoir répailler tous ensemble, parce que voilà, je crois que la musique, c'est quelque chose qui réunit les gens, mais... la bonne chère, finalement, on est en France et tout va bien.
C'est recevoir, en tout cas.
Écoute, je ne sais pas si c'est recevoir. En tout cas, vous êtes des hôtes qui font honneur, qui fait honneur voilà, à ce qu'on peut apporter. Des c'est un studio de radio.
Des hôtes de ces bois.
Vous êtes le phénix, c'est ça ?
Oui.
C'est un studio de radio, mais on le devine juste brièvement, parce qu'il y a une table de mixage, des micros qui ressortent de toutes ces victoires. Voilà, c'est pas très radiophonique tout ça. Je voulais avoir, peut-être, puisque trois des membres de AWEC seront en permanence autour de ce micro, vos impressions par rapport à ce concert d'hier, vu de l'intérieur, peut-être Joël, pour commencer. Voilà, comment s'est passé pour toi sur scène en tant que bassiste d'un groupe qui existe depuis 24 ans ? C'était un concert comme les autres hier soir.
Oui, enfin, c'est jamais exactement pareil. Là, moi, j'ai bien aimé le cadre, le lieu est superbe. Et voilà, un public très à l'écoute. On sent un public bien éduqué au blues chez vous.
Quelque chose que tu partages aussi, Stéphane ? Excuse-moi, non, pas Stéphane, pas tout de suite. Si, Olivier, ça va dépendre.
Attends, j'avale mon pain. Mais non, super endroit. Et puis, super public et tout. Puis moi, j'étais bien, il y avait un bon son pour moi. Enfin, même si ça tournait un peu au départ, c'est une grande salle, en fait, très haute et tout ça. Pas forcément évidente à sonoriser, mais avec les gens qui avaient, l'ambiance, tout ça. Moi, je me suis bien régalé, en tout cas. Je trouvais qu'on avait fait un bon concert.
Ah oui, c'est clair. Oui. Olivier, c'était un parti pris pour toi de ne pas utiliser la stèle batteur, d'être vraiment au même niveau que les autres, d'être tous les quatre soudés comme ça sur la petite partie de la scène devant ?
Bah ouais, parce que déjà, je sais pas être en avant. Là, quand tu es vraiment derrière, tu es dans une cage un peu séparée.
C'est ça.
Et nous, on est vraiment un groupe, quoi. On aime bien être dans le son. Moi, j'aime bien entendre l'ampli, guitare.
On joue groupir dans.
Ouais, voilà.
Groupir.
Et là, si tu te mets derrière, en fait, t'es vraiment à l'écart. Et il faut que tu repasses tout dans ton retour. Et moi, moins il y a de choses dans mon retour, mieux je me porte.
Stéphane Bertolino, harmoniciste de AWEC. Également, tes impressions, t'étais à l'aise au niveau confort scénique, ça allait ?
Super à l'aise.
Mmh. Le public ?
En fait,
alors, tout près, par contre, on n'entend presque rien. Voilà, il faut remontrer peut-être le micro.
Donc ça
voilà.
Faisait quoi, 10 ans qu'on n'était pas venu, c'est ça ?
Ça faisait 10 ans. Ah ouais.
Et du coup, bon, il y a 10 ans, je ne me souviens plus exactement comment ça s'était passé. Parce que c'était au début que j'étais dans le groupe. Et là, j'ai super bien senti, comme disait Joël, quoi, le cadre, le lieu, les gens. Très proche, très passionné, à l'écoute et super son, ouais. Mmh. Et bonne ambiance.
Bernard, tes impressions ?
Ah ben, disons que bon, c'est comme disait Joël tout à l'heure, c'est qu'en fait chaque concert est différent. C'est aussi notre huitième concert là depuis 8 jours en
gros. De suite, ouais.
Voilà, puisqu'on joue. Et bon, je sais que en général, on joue toujours de mieux en mieux quand ça avance, parce que on est dedans, quoi. On n'a pas le temps de passer à autre chose. On était dans une bonne forme, je pense, hier. Ouais, j'espère que. Et puis ce soir, ça sera aussi un très bon concert. Ça sera le dernier de la tournée. Ce soir, je le dis, puisqu'on est en Normandie aussi. On joue à la Rotonde, donc c'est à Faux-Villancourt. Et c'est à partir de 21h, il y a une première partie. Désolé, j'ai oublié le nom de la première partie.
On va retrouver ça.
Mais en tout cas, oui, on était. Déjà en ce moment, on est, je trouve, assez en forme. Voilà, depuis 24 ans, on a eu des moments de creux, des moments où on est moins inspiré, des moments où on est moins ensemble. Mais là, on est, je pense, dans une bonne période d'AWEC. C'est le moment, les gars, peut-être de faire quelque chose de nouveau.
C'est le moment de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, on peut peut-être creuser le.
Entamer une nouvelle ère.
Ouais.
Ouais.
C'est-à-dire
changer de remorque, par exemple.
J'ai retrouvé l'info qui te manquait. Donc, c'est le groupe Harley, qui s'appelle A-R-L-E-Y. Voilà, ouais, hein, c'est un duo soul blues rock constitué d'un guitariste choriste et d'une chanteuse percussionniste. Très influencé par les années 70, ils remettent au goût du jour des groupes mythiques en les modernisant. Un duo formé à Paris en 2016. Voilà, c'est eux qui vont ouvrir pour vous. Un petit mot peut-être à propos de la première partie hier soir. Jean-Christophe Panicaud, tu connaissais sans le connaître, Bernard?
Oui, j'avais entendu le nom. Et puis, moi, ce qui m'a séduit d'abord, c'est le personnage. Puisque c'est un grand gaillard, toujours souriant, très positif, qui communique très très bien. Déjà humainement comme ça, on s'est rencontrés à table, donc ça c'est déjà...
ça crée des liens tout de suite.
Ça crée des liens, c'est vachement sympa. Et puis après sur scène, ben, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que cette convivialité, bon, elle existe aussi avec le public, il met tout le monde à l'aise. Et puis il est très inspiré dans ce qu'il fait, non, c'est un chouette gars, vraiment super.
Ça inspire aussi Olivier, ce genre de remarques. C'est vrai que c'est important, les rencontres humaines, tout autant que la musique, ou c'est vraiment la musique qui prime qualité musicale ?
C'est même carrément plus important, des fois. Parce que tu peux, des fois, ne pas forcément accrocher musicalement avec quelqu'un, parce que c'est pas ton style, ou c'est pas, il y a des trucs que t'écoutes pas forcément. Mais, par contre, si tu passes un bon moment avec les musiciens ou l'artiste, c'est cool, quoi. À la limite, je préfère ça que l'inverse.
C'est-à-dire un mec qui va jouer super bien,
qui va faire, mais qui a un manche, quoi, un vrai con, quoi.
Oui,
excuse-moi, mais
oui, ou un connard.
Un connard, on peut dire ça, qui tu peux pas parler parce qu'il se la raconte. Ah, il y en a un paquet comme ça et qui joue très bien. C'est dommage, ça.
Des noms, Olivier.
Je préfère. Alors, me branche pas là-dessus.
Non, t'inquiète pas.
Non, mais voilà.
Si t'avais dit papa, j'aurais coupé le micro avant que tu dises Choubi. Pardon, excusez-moi, j'avais dit.
Non, il n'y a pas de nom, mais c'est vrai que c'est des choses que dans les festivals que tu peux vivre où tu as des gens avec qui tu sais que ça va être super musicalement et puis finalement ils sont décevants humainement.
En même temps, c'est pas tellement le problème du public, ça. Les gens sont venus voir un spectacle et nous on en parle parce qu'on vit ça de l'intérieur, moi en tant qu'organisateur et puis ici intervieweur et vous en tant que performeur, en tant que musicien. Il n'y a plus de poirée, il va falloir faire quelque chose, Bernard. Il n'y a plus de poirée. Ça, ce sont des considérations qui sont intéressantes à connaître, mais en même temps, qu'est-ce qu'il est venu faire, le public? Il est venu voir un spectacle, il est venu voir des bons musiciens, que humainement, ce soit quelqu'un qui se réfugie dans sa loge parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas envie de signer quoi que ce soit. À la limite, ce n'est pas grave pour...
Non, mais pour le public, je suis d'accord avec toi, ça, mais le public, ça. Il n'a pas la même... Il vient, il rencontre un mec sur scène, il ne le voit pas en dehors, ni avant, ni après. Nous, on a mangé avec le gars, on l'a vu à la balance, on partage des choses avant le concert, tu vois, pendant deux heures, trois heures après le concert. Donc forcément, quand t'as quelqu'un qui est, même si musicalement il est pas, je dis pas ça pour hier, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, quand t'es avec quelqu'un qui n'est pas forcément qui joue pas les mêmes trucs, les trucs que t'écoutes ou que tu aimes, peu importe, si humainement ça se passe vraiment bien, pendant 3 heures, tu vas passer un moment sympa.
Même s'il est capable de reprendre des morceaux de Johnny Hallyday.
Ah bah oui, il faut être capable de reprendre du Johnny Hallyday.
C'est clair.
Ça veut tout dire, hein, dans le bon et le...
Ah oui, non,
faut être capable.
Voilà, on va pas entamer un débat sur Johnny Hallyday, on va parler blues un petit peu, puisqu'on a le groupe Awake dans le studio du 666, voilà, dans Sweet Home Chicago. On va écouter un deuxième titre tout à l'heure, mais juste avant, poursuivre peut-être... Dans la droite ligne de ce genre de remarques. Stéphane, toi, ton approche de l'instrument, c'est l'harmonica. Tu as déjà joué d'autres instruments, tu t'y es déjà essayé. Je sais que tu as eu une vie avant Awake. Hein,
oui, j'habitais quelques années à Montréal, au Québec.
Voilà.
Et puis j'ai fait différents...
On entend l'accent d'ailleurs.
Oui, je l'ai perdu un peu, mais... Un peu beaucoup, mais non, j'ai fait un peu...
Dans le sud-ouest du Montréal.
Et puis j'ai fait d'autres métiers aussi, d'autres boulots.
Ouais.
Et enfin voilà, j'ai profité de voyager.
Et de la jeunesse.
Et de la jeunesse.
Qui est toujours là, parce que c'est toi le plus jeune des quatre.
Ouais. Hein, et je ne joue que de l'harmonica, oui. Et quand je suis rentré du Québec, j'ai rencontré Awake, quoi.
Je profite pour poser une question, parce que c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, Bernard Selam, qui est le leader, guitariste, chanteur de Awake, c'est toujours lui qui passe au téléphone, et puis vous habitez pas ensemble, donc c'est pas facile d'organiser une conférence à 5, surtout avec les petits moyens de Radio 666. Là, vous êtes tous ensemble. Moi, j'en profite pour te poser la question. En 2011, tu as remporté un prix à l'European Blues Union à Memphis, le prix lié Oscar du meilleur harmoniciste de tous les groupes qui se sont présentés cette année-là. Oui. Qu'est-ce que tu avais ressenti à chaud au moment où tu as su que c'était toi?
J'étais très surpris parce qu'au départ, je venais pas pour... pour moi, la musique, c'est pas un concours, mais bon, on était là, donc il fallait concourir. C'était super, hein, c'était une super expérience. Et puis on était aux États-Unis, donc à Memphis, c'est sympa. Et j'étais très surpris, quoi. C'est Olivier, en fait, qui m'a dit « Ouais, je crois que t'as gagné un truc, là. »
En plus, on n'était pas en finale, quoi. Cette année-là, on n'est même pas allé en finale.
Ouais, exactement, on n'était même pas en finale.
Quand tu dis cette année-là, Olivier, ça veut dire que vous êtes retourné ?
Ouais, voilà, ça, c'était pour dire que... non, mais j'ai pas réalisé. Ouais, mais effectivement, oui, on y est allé en 2008, où là, on est allé en finale, donc ça, c'était un super moment. Mais c'est vrai qu'en 2011, on se fait éliminer en demi. Bon, après, voilà, ça, c'est pas important, mais de savoir que Stéphane remporte le prix alors qu'il n'est pas même dans la... En finale, c'est beau, quoi.
Il y a des choses prestigieuses qui sont arrivées à WEC. On en profite que Bernard se soit un petit peu éclipsé. La première partie de B.B. King, 2009, à Cognac, ça a été un bon et un souvenir un petit peu plus mitigé, j'ai envie de dire. Il y a eu des choses bonnes et moins bonnes. Est-ce qu'on peut en parler ? Joël, peut-être ?
Ah oui, c'est un super souvenir, mais oui. Après, les conditions techniques n'étaient pas extraordinaires pour nous, mais c'était quand même génial. Ils nous ont mis dans un coin parce qu'ils voulaient rien bouger au matos.
Alors quand tu dis il, il s'agit pas de l'organisation du festival.
Non, c'est le je sais pas comment appeler
l'entourage.
L'entourage de B.B. King qui a mis le veto. Rien ne bouge. Donc on s'est retrouvé un peu coincé, mais après, voilà, c'est un grand moment d'AWEC, ça.
Comment est-ce qu'on peut cadenasser comme ça un artiste autour? Ben, je ne sais pas, le mettre sur un piédestal au point que ce soit B.B. King ou Eric Clapton, peu importe. Comment est-ce qu'on peut le couper de son public, des musiciens qui vont faire sa première partie? Est-ce que vous avez compris cette attitude? Par son âge, par sa...
Non, mais ça, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de star system.
Il est dans sa bulle, le gars, il se protège, il a un manager, et puis c'est le manager qui fait du zèle par moment, et qui gère les choses à sa manière. C'est vrai que c'était pas bien, parce que nous, on jouait quand même une heure et demie, on devait jouer, donc c'est pas juste une apparition de 20 minutes. Tu dois jouer une heure et demie, il faut choper les gens, t'as 8000 personnes qui sont là, bon, il faut rentrer dans le concert, tu sais... C'est un concert devant 8000 personnes, ça peut très bien se passer quand tu chopes tout le monde.
Oui.
Maintenant, ça peut être une cata si c'est le contraire.
Il faut pas attendre le dixième morceau.
Tu vois, si tu sens que le public est pour ça, faut que toi, tu sois à l'aise sur scène. Et c'est vrai que là, on avait genre une bande de 2 mètres, on était en long, alors que la scène de Cognac, elle est absolument magnifique et
surtout,
immense.
C'est pas la première fois non plus.
Voilà.
Donc alors, ça nous est arrivé aussi. On a fait une première partie, par exemple, rien à voir avec le blues, mais de Ricky Lee Jones.
Oui.
Pareil. C'est même combat, une super grande scène, et puis on nous a mis dans un petit coin, quoi, sur le côté.
Sur le côté, ouais.
Zucchero, c'est pareil ?
Non.
Meilleur
Zucchero, c'était plus sympa. Disons qu'en plus, ils avaient amené, je crois, leurs moyens techniques aussi. Il y avait déjà la technique sono, tout ça, du festival, mais eux avaient aussi... Il y avait deux doubles systèmes, c'était assez incroyable. Mais,
donc il fallait faire le double patch, et puis donc...
Mais bon, on s'est fait virer très vite, hein, par contre, après. Hein, il fallait pas que ça traîne, hein, je crois.
Oui,
en 5 minutes, il fallait qu'on ait dégagé notre
compris,
matos.
On ne demande pas d'autographe sur scène, on est bien d'accord.
Après, Texas aussi, c'était pas mal, le batteur qui joue pendant qu'on joue aussi. C'était chouette. Dans les souvenirs sympas, des premières parties. Le mec, il est derrière le rideau, on le voit pas. Par contre, il vient s'entraîner avant de jouer, mais en faisant autre chose qu'un shuffle, par exemple, sur le qu'on est en train de jouer.
Tu veux dire, vous étiez pas en balance, vous étiez vraiment en concert devant
lui. Ah non, il était en plein concert. Wow. Mais lui, il s'est dit, c'est le moment de me chauffer. Je monte sur ma batterie. Il y a juste un rideau qui sépare mon dos de sa batterie.
Et là, tout de suite, les trois autres se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fout notre batteur?
Il fait de la polyrythmie. C'est-à-dire un shuffle incroyable de la main droite et puis du autre chose de la main. Non, mais voilà, c'est des souvenirs,
peut-être qu'on parlait de Star System à l'instant. Il y a des gens qui sont plus tout à fait, qui touchent plus terre, enfin des gens qui sont un petit peu hors sol, c'est ça?
Ça arrive, ouais. Hein, oui.
On ne peut pas forcément les éviter quand on est programmé. Bernard, tu vas nous en parler sur des grands festivals, que ce soit de blues ou autre, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On a forcément affaire à toutes sortes de gens, des amateurs, des gens qui jouent pour la deuxième fois et des superstars qui sont là installés et qui. À qui finalement peu chaud le fait d'avoir tel ou tel. C'est qui en première partie
Moi, je pense que c'est pas un problème d'artiste, parce que souvent les artistes ils sont très cool. Et meilleurs ils sont, et souvent très cool. Ils sont aussi cool qu'ils sont bons, la plupart du temps. Je pense qu'il y a. C'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, les managers, c'est la boîte de production, c'est ces gens-là. C'est tous ceux qui font pas de la musique.
Ouais.
Non, c'est connu de toute façon. Déjà, qui est-ce qui gagne de l'argent? Qui est-ce qui a gagné beaucoup d'argent depuis qu'il y a le business de la musique? C'est les gens, c'est pas les artistes, c'est les autres. c'est les maisons de disques, c'est les fabricants d'instruments, les magasins, c'est les producteurs, etc. Et ces gens-là, bah, ils se protègent parce qu'ils essaient de garder la main sur ce business-là. Et donc, voilà, ils sont prêts à faire tous les coups. Bon, voilà. Les artistes ne sont pas comme ça. Les artistes, ils planent, nous, on plane, on est dans notre bulle, on est dans nos compos, dans nos notes, etc.
Alors c'est vrai, mais peut-être pas à 100% pour vous, parce que j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est vous qui vous occupez du booking, c'est vous qui assurez l'agenda, le suivi, les envois promo, etc. Il y a forcément quelqu'un dans le groupe qui fait ça de façon...
Non mais nous c'est tout en direct, c'est ça l'histoire, c'est ça. Même un organisateur, un programmateur, n'importe qui va avoir affaire à l'un d'entre nous directement, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc
Olivier, tu prends ton téléphone, tu passes 40 coups de fil.
Bah ouais. C'est comme ça qu'on fait depuis 25 ans, et bientôt 25 ans. Ouais.
Et en même temps, si tu veux, c'est à double tranchant, parce qu'il y a des moments où on aurait vraiment besoin d'avoir un road manager, quelqu'un qui est là, au moment où tu arrives, tu t'es tapé de la voiture et tout, où il y a quelqu'un, où il y a pas forcément un problème, mais il y a une décision importante à prendre. Et à ce moment-là, de ne pas passer pour un emmerdeur, de dire non à ce qu'on te demande de faire, quand tu es artiste, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand tu es artiste, c'est que tu dégages quelque chose de plutôt sympa, puisque tu vas donner du plaisir aux gens. Donc c'est difficile d'avoir les deux casquettes. Et là, c'est le boulot de l'emmerdeur,
ouais.
du manager. Donc peut-être qu'aussi, au bout d'un moment, les managers, ils sont tout le temps cantonnés dans ce rôle-là. Et puis, ils le gardent.
Et ça marche peut-être mieux comme ça pour certains. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'avec vous, on en est à combien de dates par an maintenant? Ça continue de façon régulière.
L'année dernière, on a fait une super année. On a atteint 70 dates. Alors pour certains, c'est peut-être pas beaucoup. Pour d'autres, comme nous, depuis 24 ans, faire 70 dates dans une année, c'est énorme, quoi.
En faisant que à 98%, on va dire, des salles, des festivals et des vrais endroits dédiés à la musique, quoi.
Oui, c'est des choses qui se démarchent 6, 8, 1 an à l'avance, 8 mois. Enfin, je veux dire, tu ne trouves pas une date comme ça 2 mois avant, non. Donc c'est quelque chose, c'est un travail en amont important, quoi, très très important pour pouvoir gérer une année, construire une année, avoir du boulot et puis avoir des projets, parce que plus on a du travail, plus on va projeter d'autres choses. Et puis c'est super important. Donc on est entre 60-70 dates. Une belle année pour Awake, c'est 70 concerts. Voilà, cette année on fait une petite. On baisse un peu, mais voilà, on fait ce qu'on peut de façon.
Mais on est qu'en mars, j'ai envie de dire, il y a d'autres dates qui vont sûrement rentrer. Peut-être, il y a 52 week-ends par an.
Je pense qu'on fera pas 70 dates, mais on en fera au moins 60. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est pas bien. Mal, quoi.
Ça nous amène au deuxième morceau de l'AWEC, et puis j'aurai d'autres questions pour vous. En tout cas, très heureux encore une fois de recevoir les quatre membres d'AWEC. Et il y a également Fred Delforge qui est là. Je pense qu'il a été embauché d'ailleurs à la cuisine.
Il est en train d'ouvrir une bouteille.
Merci Monsieur Jouglas pour ce splendide Cahors 2010. Et puis nous, on poursuit avec un nouvel extrait de Long Distance. Ça s'appelle Sunny Sunday. AWEC dans la radio. Can one man be?
sing your happy song as we stroll along. Burgers and a beer, ecstasy's here.
On va parler un petit peu de la couleur musicale d'Awake, qui a bien évolué, on va dire, depuis les débuts. On rappelle que le groupe, la formation du groupe en trio remonte à 1994, autant dire que le jubilé, c'est pour 2019, c'est pour très très bientôt. Il y avait eu d'ailleurs des choses pour le 20e anniversaire du groupe, Bernard. On peut rappeler ça, le fameux petit livre qui est toujours... disponible, enfin quand je dis petit livre, c'était un.
Ah, c'est un petit livre. Ça, non, ça se lit en trois quarts d'heure, enfin, ouais. Ça dépend qui, hein, mais.
Bon, après, y a moi, personnellement, j'ai pas fini de le colorier, mais si, ah, oui. Sinon.
Ça se jette facilement aussi.
Ouais, ouais. Ah bon, non, mais c'est bien, c'est un livre qui est bien aux toilettes, par exemple.
Ah, ouais. Parce que... Ou pour s'essuyer, ou ah, oui. Pour lire.
Voilà. Voilà, des auteurs en tout
ouais,
cas.
Papier qui glacé, ont... ouais, c'est pas toujours terrible.
Mais... Papier glacé, non.
C'est vrai, par contre, c'est vrai qu'il y a un beau packaging, comme on dit, avec un DVD. Avec plein de concerts d'ailleurs, il y a le concert de Cognac, on nous voit serrer la paluche à Monsieur King, à Riley King. Ouais, c'était. Ben ouais, là on arrive sur le jubilé, comme tu disais, ça me plaît bien, on va regarder le jubilé.
Jubilé de 25 ans.
On va jubiler l'année prochaine.
Alors jubilons avec Awake et puis parlons un petit peu couleur musicale et influence, parce que est-ce qu'on se trompe? Et là je vais poser la question. À Olivier et à Joël, est-ce qu'on se trompe en disant qu'au milieu des années 90, Awake était un groupe de blues rock? Ou est-ce que c'est encore trop réducteur comme image?
Non, on ne se trompe pas vraiment parce qu'on était en trio au départ, donc forcément, on était. Puis bon, moi j'avais personnellement pas une grosse culture dans le blues, en fait, c'est Bernard qui lidait un peu tout ça.
Ah bah puis je peux te dire que depuis, ça c'est trop de mort rattrapé.
Oui, on a changé un peu, mais on a évolué, puis, mais c'est vrai qu'on avait un guide, quoi. C'était Bernard pour ça, et franchement, c'est vrai. Et non, mais après on était un trio, donc on nous appelait, on était un peu un power trio, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer, quand t'es trois... ta guitare et basse batterie, quoi. Je veux dire, quand il n'y a pas de solo, il faut envoyer en permanence, il faut choper tout le monde. C'était... Et puis bon, on mélangeait un peu les choses. On faisait du rhythm and blues, du rock, du blues.
Des reprises
ouais. Des reprises de plein de choses, du funk. On sortait de plein de choses. Donc,
on faisait un mélange de tout ce qu'on aimait. Mais en plus, on avait des instruments moins vintage.
Alors, c'est la question aussi, que j'allais te poser sur les instruments, justement.
Au niveau
parce que...
du son, ouais, aussi. Au niveau du son, on avait des instruments plus...
modernes.
Plus modernes, on va dire.
Plus modernes à l'époque. Et puis maintenant qu'on on a passé 20 ans ou 25 ans, vous avez racheté des choses oui, vintage. Ouais,
plus Tabas, cher, par beaucoup exemple. Plus cher.
Oui. Ouais. Là, on s'est enrichi, donc on a acheté des belles rates.
Tabas, par exemple, Joël, ouais. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une quai des fins années 50. C'est une marque américaine des années 50, qui étaient des basses cheap, qui étaient vendues peut-être en supermarché même.
Question et réponse rapide, là encore, parce que ça concerne les musiciens ou les spécialistes. Tu joues sur quel type de batterie, Olivier?
Bah moi, j'ai la chance d'avoir une Gretsch de 1959, donc ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est un bel instrument.
Mmh. Et même question pour Bernard, bien sûr, guitare et ampli.
J'ai une guitare, j'ai une 330 Gibson de 1967, donc c'est un peu plus récent que mes collègues.
Elle a déjà 50 ans.
Après,
quand même.
J'ai des guitares plus vieilles à la maison, mais qui ont mon âge, mais que je garde à la maison parce que elles restent à la maison, elles ont plus l'âge de sortir.
Et tu te plugues sur des lampes?
Voilà, et puis mes amplis, j'ai plein d'amplis à la maison, c'est pareil, là j'ai le plus récent qui est 1980, mais que j'ai customisé, comme on dit, avec des haut-parleurs, des lampes un peu particulières, etc. Donc c'est pas très très vintage, mais bon, 80, ça fait quand même 38 ans.
Voilà.
Mais bon, dans la musique, dans les instruments de musique, c'est jeune ça.
Des instruments et des amplis qui sortent pas forcément de la maison, à moins que ce soit à l'occasion d'un enregistrement.
Absolument, mmh. Ça sert à ça. C'était le grand plaisir des de deux derniers disques, parce que les disques précédents, les trois autres, on les avait fait aux États-Unis.
Oui, donc la douane, tout ça, compliqué.
Là, tu prends qu'une guitare, et puis bon, après, il y a du bon matos au niveau ampli aux États-Unis, il y a des choses fabuleuses.
Et puis ça se loue. Ça se loue, ça se prête.
Bon, on a suffisamment de connexions de copains. Oh. Mais c'est vrai qu'au niveau des guitares, dans le dernier disque, ouais, j'ai utilisé 4 ou 5 guitares différentes. Que j'aurais pas pu, chose que je n'aurais pas pu faire aux États-Unis. Et puis moi, quand on te prête une guitare, c'est, bon, il faut l'apprivoiser, la guitare. Moi, mes guitares, je les connais bien, quoi. Je connais leurs défauts, je sais exploiter les défauts, etc.
Il y a Fred Chapelier qui répondait dans une interview pour Soulbag, dans le numéro qui vient de sortir, et qui disait, c'est une question pour toi Bernard, ça, parce que en tant que guitariste, excuse-moi, déjà, il disait, moi à une époque, pratiquement au début, je me faisais 10 heures par jour de guitare, tous les jours, pas de samedi, pas de dimanche, tous les jours, et ça pendant 10 ans. Est-ce que ça a été une période par laquelle tu es passé aussi?
Je pense que c'est obligatoire pour n'importe quel instrumentiste d'avoir une période comme ça, monastique, où tu penses qu'à ça, tu dors.
Qui est cette Mona dont tu parles? J'ai pas bien compris.
Mona Lisa Claxton. On va faire allusion à Jacques Higelin. C'est comme n'importe quel boulot. Enfin, c'est sûr que quand un médecin il fait 10 ans de médecine et puis il sauve des vies. Nous, on fait 10 ans d'études certainement. Et puis après, on donne du plaisir. Bon, c'est autre chose. Mais je pense que c'est indispensable. Moi, je crois que tous dans un WEC, et tous les musiciens que j'ai côtoyés, aussi doués qu'ils sont les uns les autres, à un moment donné, il faut se mettre au boulot sérieusement.
Ouais. Alors se mettre au boulot, ça veut dire travailler seul, en moine, comme tu l'évoquais, mais aussi en répétition, parce qu'un WEC répète beaucoup.
Non, nous, on ne répète plus.
Parce que vous jouez, vous sortez d'une tournée de 8 jours, 9 jours.
On répète quand on va faire un nouveau disque.
Voilà, d'accord. Donc ça veut dire qu'automatiquement, le répertoire, il est en place. Avec une première balance pour une première date, ça suffit?
Oui, non, ça va. Alors, on a fait 10 disques à raison de 12 morceaux en moyenne par disque. Ça fait 120 morceaux. Ouais. On en a plein des morceaux. Et puis, on se connaît tellement bien.
On a répété 12 fois, en fait.
Ouais. Non, on a répété que 12 fois dans notre vie. Ouais.
Tout le monde croit ça. En fait, l'idée, c'est que voilà, la musique, ça se partage. Vous le prouvez par votre complicité scénique et puis par l'amitié qui vous lie. Ça se voit même à la radio, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous arrive d'accueillir d'autres musiciens sur scène en bœuf en tant que voilà, groupe AWEC qui invite des musiciens?
C'est une chose. Pas qu'en bœuf, en fait. Là, récemment, on était avec Antoine Laville, un super pianiste. Il nous a rejoint sur deux dates, à Besançon et en Suisse, je crois que c'était, ouais.
Ouais. Et puis on a fait aussi, on a joué avec 80 copains en même temps.
Ah oui, alors ça c'était dans le cadre de du monde de la musique classique. Hein,
ouais.
C'était en janvier dernier, c'est ça?
Oui, c'était en janvier, c'était il n'y a pas...
Tu peux nous raconter, on a évoqué ça en filigrane au téléphone l'autre jour, mais ouais. on peut se lâcher. Là. Je crois que ça fait partie des dates butoirs quand même de l'histoire d'AWEC, non?
Bah, c'est une expérience incroyable, un vrai moment d'émotion, enfin plus que ça va plus loin que ça, un moment de trac, parce que tout d'un coup t'es confronté à quelque chose que tu sais pas faire. Oui, c'est donc là que ça devient intéressant. On a vraiment avancé avec ce projet, on a beaucoup répété, il faut le dire.
Alors ça consistait en quoi? Il faut lire la musique.
Oui, tout le monde n'est pas... Moi, je ne suis pas un très bon lecteur. Je lis un peu la musique, mais je ne suis pas très bon lecteur.
Il y en a qui colorient.
Voilà, il y en a qui colorient les partitions. Mais oui, on a travaillé beaucoup, on a beaucoup appris cette œuvre. C'était une œuvre qui a été écrite par William Russo à la fin des années 60 et qui a été jouée essentiellement par un grand maître qui s'appelle Ozawa, donc un grand chef d'orchestre, et qui a été jouée par, je crois, le Philharmonique de San Francisco... Et je crois le Philharmonique de Chicago, je ne sais plus exactement, et c'est un disque qu'on trouve chez Deutsche Grammophon, donc qui est la boîte de disques du classique, et c'est une œuvre qui n'avait pas été jouée en gros depuis 50 ans. Mm-hmm. Et l'harmoniciste qui est en vedette dans cet enregistrement, c'est Corky Siegel.
D'accord. Et oui, c'est vrai que lui, c'est un petit peu, depuis le Siegel Schwall Band des années 70, il a eu d'autres expériences, il a même fait de la musique de chambre à un moment donné. Il y a un album comme ça, mais tu connais peut-être album, oui. Plus la scène canadienne, toi, Stéphane
Oui, enfin, sans prétention, non, mais pas complètement, mais Mais lui, oui, Corky Siegel, il a sorti un album, il avait sorti un album qui s'appelle Chambers Blues. Mm-hmm.
Exactement. Voilà,
avec, je crois que c'est un quatuor.
Un quatuor à cordes.
Ça, voilà.
Ça avait été assez déroutant la première écoute, enfin je parle pour moi, et effectivement après c'est ce genre de musique dans lequel on n'est pas obligé de rentrer tout de suite si on n'a pas les clés. C'est pas comme le blues ou le rock qui sont des musiques assez directes finalement. Et voilà, la musique classique, je ne sais pas s'il faut véritablement une culture pour apprécier. En tout cas, ben voilà, il y a.
Ben nous en tout cas, enfin moi j'écoute un petit peu de classique, mais pas beaucoup. Bon, faut dire que je suis assez branché blues. Moi, c'est ce que j'aime le plus écouter. Bon, c'est
bizarre.
Ça. C'est bizarre. Il y a un truc que je comprends pas.
J'allais t'interviewer sur.
C'était une super expérience pour voilà, sans détour. C'était une expérience extraordinaire pour nous quatre de pouvoir jouer avec un orchestre.
Super rencontre.
Symphonique. Voilà. Et puis avec des gens super, parce qu'en fait. Le monde du classique, ben c'est des musiciens, ils sont comme toi, donc ils sont passés pareil par cette étude de l'instrument où tu joues sans arrêt. Bon après, voilà, ils jouent dans d'autres styles, ils jouent dans d'autres salles, mais c'est pareil quand même.
Pour beaucoup, ils sont quand même passés. Parfois, enfin je parle pour le musicien français de base, par quelques années de solfège avant même d'avoir parfois le droit de toucher une seule fois l'instrument. On peut en penser ce qu'on veut de cette pédagogie-là, mais il y a un écrémage qui se fait dans les conservatoires. Au bout d'un moment, on se retrouve avec 10 ou 15%
des musiciens. C'est plus vraiment comme ça.
C'est moins vrai maintenant.
Non, je pense que l'univers classique que je connais très peu,
oui.
Mais c'est des gens super cool. Tu regardes les pochettes des disques classiques, c'est des rockstars. Ils sont tous voilà. Il y a une grande ouverture dans le classique. C'est et le chef avec qui on a travaillé, qui s'appelle Jean-François Verdier, c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, qui justement crée des passerelles entre tous les styles de musique. Il va travailler avec des musiciens de jazz, avec de la musique traditionnelle orientale. Il va essayer de mélanger à chaque fois donc son groupe avec un groupe. Et là, en l'occurrence, c'était avec un groupe de blues, avec Awek. Et c'est une expérience incroyable. Qu'on nous dise pas qu'on est des ayatollahs du blues, parce que là on a fait un truc voilà, là on peut
parce que c'est quelque chose que tu as entendu, Bernard. On t'a dit à un moment donné, vous êtes des puristes du blues, c'est ça?
Oui, enfin pas nous spécialement, mais bon, moi disons que moi ça m'ennuie cette espèce de discours qu'il peut y avoir par rapport au blues. Ouais, vous êtes pas ouvert, etc. Mais bon, moi je me rends compte que on demande beaucoup d'ouverture en l'occurrence dans des festivals, et on se rend compte qu'en fait les gens qui sont le mieux payés dans les festivals de blues, bah c'est pas les bluesmen,
oui.
C'est les autres, et oui. C'est eux qui ont un nom plus gros sur l'affiche aussi. Et puis finalement, on voit de moins en moins de gens qui jouent du blues tel que nous, on l'aime dans Awek. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas d'autres choses. Mais en tout cas, le blues, nous, on estime que voilà, il y a certaines choses qu'il faut respecter. En l'occurrence, le son. Voilà, quand tu joues du blues, que tu as 36 000 pédales avec des échos, des machins, pour un guitariste, bon, pour moi, tu sors du contexte, mais t'es un super guitariste de rock, mais c'est autre chose. C'est un autre univers.
Moi, j'ai envie de dire que la musique qui fait vibrer l'âme, c'est avant tout celle-là qui importe, hein, qu'elle soit blues ou moins blues.
Ah non, mais moi, je...
Mais après, voilà, tout ça, c'est une question
des
goûts et des couleurs. Oui, non, bien sûr. Alors, je rebondis sur... Oui, pardon, Olivier.
Non, je voulais juste dire aussi que c'était par rapport à ce concert et cette rencontre avec l'orchestre symphonique, ce qui était rigolo, c'est que des deux côtés, on était tous excités, très excités et surpris par cette œuvre. Que ça soit les 80 musiciens de l'orchestre.
C'est dommage qu'on ait rien à proposer au niveau son à nos auditeurs.
Et nous-mêmes, parce que nous, bon, on avait travaillé seul de notre côté, et à un moment donné, on était bloqués parce qu'il nous manquait quand même tout l'orchestre, juste 80 musiciens, et surtout le chef d'orchestre. Et puis eux, c'était pareil, ils étaient bloqués. Puis quand on s'est rencontrés, même dans les répétitions, il y avait des passages à vide chez eux aussi, parce que l'œuvre, elle est quand même vachement contemporaine, même si elle est, c'est une œuvre classique, quoi, mais les arrangements sont complètement barrés. Et c'était vraiment incroyable. Et alors, la répétition, c'est une chose, mais quand on s'est retrouvé sur scène avec 3000 personnes devant, c'est encore un autre truc. Ça, ouais. C'était énorme.
Est-ce que ça a donné des idées aux membres du groupe d'Awek pour incorporer des éléments musicaux comme ça, éventuellement pour le prochain album ou pour un spectacle ou pour un ou deux morceaux, je ne sais pas.
Non, en tout cas, il y a un avenir avec Jean-François Verdier, qui est déjà un être humain exceptionnel. Et à savoir qu'on va jouer, on va faire plusieurs concerts, on va rejouer cette œuvre-là. On aimerait bien faire une création avec lui, justement, pareil, avec un orchestre symphonique. Bon, voilà, ça fait un peu prétentieux comme ça, devant le micro, de dire ça, mais.
C'est des choses.
Mais bon, quand ça t'arrive une fois dans ta vie, t'as envie de continuer, parce que c'est super. Il y a eu des moments d'émotion, il parle de concert, mais des moments d'émotion intense, en répétition. C'est-à-dire qu'on finissait de jouer l'œuvre, de répéter l'œuvre, et on se regardait tous et on s'applaudissait entre nous. Ah. Et c'est des choses qu'on ne fait jamais entre nous en répétition. Moi, je n'ai jamais vu des gens s'applaudir en répétition dans le blues. Et là, ça s'est passé, quoi.
Tu imagines,
Alors là,
la vache, le solo que t'as fait.
Le swing que t'as au Charleston, Olivier, terrible.
J'en connais qui font ça, même à 4 ou 5.
Nous, on joue pas avec eux.
On se fout des tartes, là.
Voilà. Bon, on va pas pouvoir écouter, malheureusement, d'extrait de cette œuvre-là.
Peut-être que ça viendra. En tout cas, pour l'instant, ça a été enregistré, mais bon, il y a des droits là-dessus. Oui. Là, on n'est plus dans le blues où tu produis tout seul. Il y a des gros enjeux derrière. On a mis un peu le pied dans le business. Bon,
Alors, rap capsilon, Dutch Gramophone, quoi, on va dire.
Après, il y a un rendez-vous l'année prochaine à la salle de la Philharmonie à Paris, ce qui va être beau aussi.
D'accord, tu connais la date?
Oui, le 26 janvier 2019, avec l'orchestre Pas de Loup et toujours Jean-François Verdier à la direction.
Bon, 26 janvier 2019 à Paris.
À la Philharmonie, c'est déjà sur le site de la Philharmonie.
Très bien.
C'est un tarif abordable par rapport à cette salle qui est extraordinaire.
C'est moins cher que les Stones, c'est ça que tu veux dire?
C'est moins cher que les Stones.
Et il y a plus de musiciens.
Il y a plus de musiciens, oui.
On va parler rapidement pour présenter, parce que vous avez choisi chacun un disque. J'ai un album qui date d'il y a quelques années dans la main, de James Harman Band. C'était un choix, je ne sais plus, c'est Bernard ou Olivier.
Olivier.
Donc toi, tu voulais un extrait de ce live, 1985. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est un artiste fabuleux, James Harman. Et puis, c'est vraiment, je me rappellerai toute ma vie, d'un retour de concert. On rentrait d'un bar à Blois. Et Bernard avait mis ça dans la voiture, j'étais à l'arrière, le blues je connaissais pas très bien, et puis il y a ce disque qui tourne, et puis les morceaux, les secondes passent, les minutes, et je suis en train de prendre la raclée de ma vie, quoi. Je suis en train de prendre une rouste terrible.
T'étais imprégné dans le truc.
Je me dis, c'est pas possible, comment ça joue là-dedans, c'est monstrueux, et à un moment donné je dis, mais c'est qui ça, Bernard? Il dit, ça c'est James Harman.
Ça s'appelle Le Talent.
Ouais, mais il y a... Et puis depuis, évidemment, bon, j'ai pas mal de disques de lui, je me suis intéressé à cet artiste, et puis plein d'autres, mais c'est vraiment le début d'un truc, James Harman, c'est extraordinaire. Et ce morceau, il est entouré par des musiciens fabuleux, là. Vous allez écouter comment ça joue, là. C'est un morceau entre autres, quoi, voilà.
Pour moi, c'est un des musiciens les plus novateurs de cette époque-là.
Alors on est il y a une petite trentaine d'années, 1985, voilà, avec des, on le sent d'après la pochette, là encore c'est pas radiophonique, mais il y a des photos de copains véritablement, c'est des potes qui jouent ensemble.
C'était son groupe, là, le James Harman Band, voilà. qui est vraiment extraordinaire avec des musiciens.
Hollywood Fats à la guitare. Donc c'est quand même un des plus grands guitaristes de ces 40 dernières années, malheureusement.
Et Kid Ramos en second.
Kid Ramos en deuxième. Et puis à la batterie
Steven Hodges.
Et j'ai oublié le nom. À la base, c'est Campbell, c'est
oui.
ça Et puis voilà, puis James Harman au chant qui est plein d'énergie, et à l'harmonica. Super disque.
On va dévoiler ça.
Un des plus beaux lives des 30-40 dernières années, on va dire, de blues.
Voilà, ça s'appelle Strictly Live in 85 Plus, c'est le volume 1, James Harman Band. On écoute ça, grâce à Awake. Alors Olivier, tu nous fais écouter des trucs comme ça et tu nous laisses sans voix.
Enfin, t'as, compris
T'as compris t'as comment il faut faire
t'embrie, comme on dit à Toulouse, t'embrie. Non mais là c'est énorme, là, l'ambiance qu'il y a, comment ça se joue, comment ils font monter le truc. Là, c'est... Moi ça, c'est, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit bon voilà, le jour où on arrivera à jouer comme ça, à s'approcher d'un truc pareil, à vivre un truc pareil sur scène.
Parce que vous pensez que vous n'y êtes pas encore.
Si, si, mais à l'époque, moi, je te parle.
Ah oui, d'accord, non, pardon.
Quand j'ai écouté ça, c'était, on était dans les années fin 90, moi, je découvrais cette musique vraiment. Je me suis dit, bon, là, tu réalises, parce qu'au début, tu penses que le blues, c'est facile à jouer. Tu te dis, bon, ça va, on va pas trop. Mais en fait, quand tu veux choper l'esprit...
Et bien
l'esprit,
sûr que c'est facile, c'est trois accords, 12 mesures.
Ouais, d'accord. Voilà, le swing et le groove, et puis voilà, les respirations, là, quand t'entends ça, il y a tout.
L'autre jour, j'ai rencontré un jeune, il m'a dit, bah, le blues, tu vas dans un champ et tu cries.
Par exemple. Hein? Mais il faut bien crier.
Voilà, donc 1985, James Harman, il y a un autre album que toi, Bernard, tu voulais nous présenter, tu voulais nous parler de ce type qui s'appelle Little Charlie Batty, parce que c'est un guitariste pas comme les autres, il a fait partie d'un groupe qui s'appelait les Night Cats avec Rick Estrin, maintenant ils font non plus cause commune, mais carrière séparée, Rick Estrin continue avec Keith Anderson, avec plein de gens très talentueux, et Little Charlie Batty, on entend moins parler de ce côté-ci de l'Atlantique, à part de temps en temps chez un certain Patrick Van Spebrock du côté du Nord, là où il arrive à choper des artistes qui vont, des artistes américains qui ne vont jouer qu'en Allemagne, qu'en Scandinavie, qu'au Benelux et jamais chez nous parce que on est peut-être moins friand de ce type d'artiste, pas très connu mais hyper talentueux, c'est ça Bernard.
Alors Charlie Batty, c'est une rencontre avec Awake, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le disque. Alors, savoir que Charlie Batty joue dans le disque Rich and Famous d'Awake. Quand on est enregistré chez Keith Anderson.
Avec une putain de pochette. Alors là, je t'en avais parlé à l'époque. Je dis, les gars, vous avez tout flambé au casino et c'est le casino qui a perdu. Hein.
Donc Charlie, oui, quand il a quitté les Night Cats, ben, il a joué beaucoup avec Marc Hummel, qui avait produit aussi cet album-là. C'est pour ça que Marc nous avait suggéré Charlie Batty. Et aujourd'hui, Charlie Batty a remplacé Monster McWelch aux côtés de Sugar et Norcia. Donc il a changé de côte, il est passé de la côte ouest. À la côte est.
À l'Alcôte Est.
À l'Alcôte Est. Voilà. Mais en fait, Charlie Batty, c'est un personnage assez étonnant. Déjà, c'est un francophile, c'est quelqu'un qui parle assez bien français. Il a appris le français parce que c'est un fan de Django Reinhardt. Oui. Et il voulait lire les interviews de Django Reinhardt en français. C'est pour ça qu'il a été à l'Alliance française à Auckland, vers où il habite, du côté de la baie de San Francisco. Et puis quand il est venu, on l'a fait venir à Toulouse avec Marc Hummel. Il a mangé un cassoulet, etc. Donc c'est quelqu'un... J'ai vu une photo, lui, il a joué à Hondarribia l'année dernière, donc au Pays Basque. Il était sur scène avec un béret basque.
D'accord. J'imagine s'il vient en Normandie, il va partir avec sa bouteille de calme.
Ben bah oui, non, mais hein? En plus il va te le demander de goûter du calme. Mais bon, c'est il va. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse.
Alors il s'intéresse beaucoup au jazz, au swing. Tu évoquais Django Reinhardt. Quelqu'un comme T-Bone Walker, par exemple, ça ne doit pas le rendre indifférent.
Charlie Batty, comme beaucoup de musiciens américains de cette génération-là, ce sont des gens très très cultivés dans la musique, qui ont exploité, qui ont étudié un petit peu tous les styles de blues et les plus grands guitaristes. C'est des gens qui font des citations comme Duke Robillard, Robbie Lord.
Duke Robillard.
Robbie Lord, ouais. Comme ils disent aux États-Unis, il y a un disque de Duke où, dans le même morceau, il cite les plus grands guitaristes.
C'est dans Bluesarama.
Exactement.
Ah, ça, c'est un album fantastique. Fantastique.
Bravo, Marc. Ah oui. Où donc, t'entends, voilà, tu fermes les yeux, t'entends à un moment donné B.B. King, suivi de T-Bone Walker, suivi de Guess Who Moved Brown, de Johnny Guitar Watson. Mm. Et de tous les grands de cette époque-là.
Il avait enregistré ça pour Stony Plain et c'est passé chez nous parce que grâce à Dixie Frog, à Monia Mundi à l'époque. Et voilà, Bluesarama, ça fait partie des 25 albums, il faut absolument posséder.
Et donc Duke, comme plein de musiciens américains de cette génération-là, musiciens blancs souvent, hein, donc qui ont une approche plus académique, on va dire, sur le blues. Ils ont assimilé tous les styles. Comme Junior Watson, c'est pareil.
C'est des gens qui sont nés immédiatement après-guerre, on va dire les années 49-50, c'est à peu près la génération de Charlie Batty, je crois qu'il est un peu plus jeune. Et lui, alors, j'ai envie de te poser la question par rapport à ce qui s'est passé depuis les Night Cats. Il est allé dans plein de directions, tu as pu le rencontrer, vous avez joué ensemble. Quelle a été la nature de vos conversations?
Bah, voilà, c'est pareil, c'est tout ce qu'on aime dans AWEC, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne fait pas que parler de musique, qui va parler justement, qui va parler de la France parce qu'il est avec des Français. Donc il essaie toujours de s'enrichir, de prendre des choses comme ça. Et puis après, j'ai vécu un truc super sympa. C'est que en fait, il m'a amené dans sa camionnette. Ouais. Attendez,
tout va bien.
Pas d'allusion.
Tout va bien.
On va rester.
Viens écouter mon dernier 30 cm, c'est ça?
Non. Pas du tout. Non, parce qu'en fait, bon, quand il est aux États-Unis, enfin en tout cas en Californie, il va jouer. Il a toujours son camion avec ses guitares, ses amplis et ses costumes surtout. Dans son